Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Ce mercredi 22 juillet sort en salle De la Comédie Française. Un film français, une comédie, réalisé par Martin Darando et Bertrand Huskla, avec Pauline Clément dans le premier rôle, mais également Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hans, la vétérante mais toujours aussi verte Danielle Lebrun, mais aussi Benjamin Laverne et Guillaume Gallienne. Le sujet du film qui nous plonge complètement dans les murs de la Comédie Française, c'est une comédie de situation qui démarre 3 heures avant la première d'une pièce de théâtre, Macbeth. C'est Nina qui dévoile sa première mise en scène à la Comédie Française, mais dans l'agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Entre retard, absence de la comédienne principale, coups de stress, problèmes techniques, problèmes d'ego, une vraie course contre la montre s'engage pour sauver la représentation, car Nina n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Il y a une règle d'or à la Comédie Française, on n'annule jamais une représentation, et particulièrement une première. Réalisé conjointement par Martin Darando, comédien, metteur en scène, auteur et réalisateur, et Bertrand Huskla, humoriste, acteur, scénariste et réalisateur, auquel on doit le fameux programme court Brout qui avait été diffusé sur Canal+, et également le programme court Moitié, où on retrouvait déjà Pauline Clément, idéal pour s'aérer les neurones en cette période estivale et entraîner ses zygomatiques. C'est un sympathique film assez délicieux, où le comique de situation est à l'honneur dans un rythme assez soutenu. On retrouve donc en tête de distribution Pauline Clément, qui a participé à l'écriture du film. Pauline Clément, c'est cette actrice qui a échappé à sa scolarité en s'inscrivant au cours Florent à 18 ans, avant de passer par le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, et qui a intégré la Comédie Française en 2015. Elle a joué dans des pièces comme Les Derniers Jours de l'Humanité de Karl Kraus, Un Chapeau de Paille d'Italie de Jeanne Labiche, ou encore L'Hôtel du Libre-Échange Georges Feydeau. Mais on a pu la voir au cinéma, notamment dans le rôle de la mariée dans le film Le Sens de la Fête, avec Bakri, mais aussi Lola et ses frères, Hors Normes, Jumeaux mais pas trop, Maria Rêve, et plus récemment dans Heureux Gagnants, Vacances Forcées ou Chers Parents. De passage à Metz pour une séance en avant-première, Pauline Clément nous a fait l'honneur de nous donner l'exclusivité pour un entretien. Pauline Clément, bienvenue.
Merci.
Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, parler du pitch du film, pour déjà donner un petit peu l'ambiance?
C'est 3 heures avant la première de la pièce de Macbeth. Nina est une metteuse en scène, c'est sa première mise en scène qu'elle fait. Et il se passe plein de catastrophes, à commencer par l'actrice principale qui ne vient pas, qui est coincée dans un train. Et après, ça s'enchaîne comme ça jusqu'au lever de rideau. On se demande si ça va pouvoir jouer ou pas, quoi.
On place quand même le décor, ça se passe à la Comédie Française.
Oui, ça se passe à la Comédie Française et tous les acteurs sont des membres de la troupe de la Comédie Française.
On y reviendra après. De quelle manière, en tant que membre, vous n'étiez pas encore sociétaire à ce moment-là, de la Comédie Française, avez-vous participé à l'élaboration du projet et son acceptation par l'administrateur qui était Éric Ruff et qu'on voit apparaître vraiment dans un rôle minuscule dans l'ascenseur,
c'est ça. Il fait une petite surprise, une petite apparition surprise. En fait, on a fait un dossier comme un peu quand on fait une mise en scène. J'ai fait un dossier en disant que je voulais faire un projet qui serait ce film réalisé par Martin Darando, Bertrand Huskla. Et c'est passé comme ça, c'était pas évident parce que c'était un peu de ça mettait en cause un peu l'image du français parce que c'était de l'autodérision sur nous-mêmes. Donc il fallait que ça passe. Moi j'avais toujours un peu la trouille qu'on trouve le bon ton, que ce soit juste et que ce soit plein d'amour quand même parce que l'idée n'est pas de se moquer de nous-mêmes, juste de se moquer de nous-mêmes, mais au fond une sorte de déclaration d'amour au spectacle vivant, à notre métier et à tout ce stress qu'on se met comme si on était des grands chirurgiens. Et après, j'ai été là à l'écriture avec Martin, Bertrand, Clémence D'Argent aussi. J'étais là à la prépa, j'étais là pour... comme un petit peu la personne de l'intérieur qui explique les codes à l'équipe de l'extérieur, même quand on a fait les repérages pour faire le tournage, les lieux. Tout le monde me disait, mais à qui on doit demander ça? Parce qu'il y a plein de monde, donc alors je dis, ça, il faut aller voir telle personne pour demander ça. Cette chose-là, il faut la demander plutôt à telle personne, tout ce genre de choses.
Mais je crois savoir que ce n'était pas un long métrage qui était prévu à la base.
Oui, c'était une série. On avait prévu de faire une série, ça n'a pas pris. On a envoyé des dossiers, puis on nous a refusé notre série. Mais on nous a donné des arguments qui nous ont permis de faire ce film. Que, par exemple, ça allait être un peu chronique, que ça pouvait être un peu trop lent, tout ça. Donc on s'est dit, on va resserrer le truc, on va mettre un timing. On va faire ça comme presque un thriller. Et du coup, à partir du moment où on a su qu'on allait faire le film, c'était en février. On pouvait le tourner qu'en juin parce qu'il y avait la salle Richelieu qui était disponible 5 jours, pas des journées entières mais 5 jours ou 5 après-midi. ce qui n'arrive jamais, parce que c'est le lieu qui ne dort jamais. Ça joue le soir. Le matin, les décors sont en train d'être démontés, donc ça prend la matinée. Ils remontent un décor, ça répète l'après-midi, la prochaine création. À 18h, ils redémontent le décor de répétition, ils remontent le décor de la pièce et ça joue. Donc ça ne s'arrête jamais. Et là, il y avait ce créneau. Si on ne le prenait pas, après le français fermé pour 6 mois de travaux. Après, on changeait d'administrateur. Après, c'était 7 mois plus tard et on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Donc on a foncé.
C'était il y a pile un an.
On l'a tourné il y a pile un an, ouais. Voilà. Et c'était en février qu'on a commencé à vraiment écrire le film.
Ce film a été écrit pour vous et par vous,
oui.
Comme vous l'avez dit, avec les deux réalisateurs Martin Darondeau et Bertrand Husclin. De quelle manière les expériences que vous avez eues avec eux pour Moitié et Brout ont influé sur la conception de ce film ?
Il y avait les deux, il y avait déjà les expériences de la Comédie Française, des choses que je pouvais raconter, des choses que nous ont racontées d'autres acteurs. On a fait des entretiens avec une dizaine d'acteurs comme ça pour qu'ils nous racontent comment ils sont rentrés, quels sont leurs souvenirs sur scène, tout ça. Et après, il y avait aussi un petit peu d'histoire de Brout, par exemple la maquilleuse qui venait d'une émission télé. On avait récupéré des maquilleurs et maquilleuses de Touche pas à mon poste, je crois, qui étaient complètement, qui étaient hyper gentils. On s'est vachement entendu avec eux et après on s'est compris et ils nous ont maquillés super bien. Mais au début, on s'est dit, ouais, mais on vient pas du tout du même monde. Il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est pas possible qu'on soit maquillés comme des chroniqueurs télé, quoi. Et donc ça nous avait fait rire, on a gardé de ça dans l'histoire.
Mais le fait que vous êtes le pivot central du projet et vous êtes le premier rôle, c'est pas une grosse responsabilité tout ça ?
Ah si, je sentais lourd sur mes épaules. Mais en fait, on a mis tellement de cœur dans ce projet. À partir du moment où on a su qu'en février, qu'il fallait qu'on l'écrive pour juin, on a envoyé balader tout ce qu'il y avait dans notre planning, quoi, tout ce qui était cours de chant, alors que c'est... que j'avais rien à chanter, tout ce qui était, cours de sport, voir ses amis, voir sa famille. Enfin, j'ai vraiment tout bazardé. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, on le fait. Mais dans ces cas-là, Martin, Bertrand réalise. Moi, je joue dedans le rôle qu'on suit parce que c'était tellement d'investissement qu'on s'est dit qu'on allait faire comme ça, quoi.
Le fait que le casting, ce soit que des membres ou des sociétaires de la Comédie Française, c'était un choix déjà dès le départ ?
C'était une condition parce que c'est une coprod et c'était pas du tout gênant. Au contraire, on aurait voulu en mettre plus. On n'avait pas assez de rôles. Quand on a su que ça allait être un film qu'on allait devoir tourner assez vite, on s'est dit on voudrait... Enfin, dans la série, on avait les 60. On rêvait des 60 comédiens qui jouaient dedans. Et là, du coup, on n'avait que 20 rôles en tout. C'était trop peu. Mais ça s'est fait très facilement. On savait qu'on écrivait pour Laurent Stocker. Je savais que je voulais qu'il y ait Sephora Pondy dedans. Sefaye Boa, c'est arrivé très vite aussi. Adeline Dermy, même pour des petits rôles. Elissa Aloula, c'est une comédienne que j'adore. C'était sûr qu'elle viendrait. Pour je ne sais pas quoi, mais c'était sûr. Donc c'était facile de distribuer le rôle.
Justement, comme vous l'évoquez un petit peu, il y a une fluidité du jeu qui est très perceptible. C'est justement parce que vous connaissiez très bien qu'il y a cette fluidité, parce que vous n'aviez que 3 semaines de tournage, c'est pas évident.
C'est de se connaître bien, c'est déjà quelques semaines de gagner, je crois. Et surtout, on était chez nous, donc on arrive en force en fait. Les acteurs sont chez eux, ils jouent des gens qu'ils connaissent, les habilleuses, les ouvreurs, les techniciens, on les côtoie, donc on connaît leurs gestes, je sais pas... Si on dit à quelqu'un improviste et habilleuse, on sait leur métier, on n'a pas besoin de se renseigner, on sait ce qu'elles font. Donc du coup, il y avait quelque chose de très évident et très facile de ce côté-là, quoi.
Le film casse un peu l'image un peu sérieuse, austère de la Comédie Française qu'on peut avoir, nous, à tort, en tant que public. Donc c'était vraiment une volonté dès le départ de tourner ça un petit peu en dérision, de faire de la comédie autour de ça ?
Non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas du tout cette image-là. Du coup, il n'y avait pas cette idée-là. Par contre, encore une fois, quand on nous a refusé la série, on nous avait dit « Oh, le théâtre, c'est trop niche ». On avait eu pas mal de critiques sur le fait de parler du théâtre. Et c'est là qu'on s'est dit « En fait, on va faire un truc sur le théâtre, mais on va le rendre populaire. On va faire un truc populaire qui prend tout le monde par la main. » Et on voulait surtout pas que, parce que ça parle de théâtre, ce soit snob et qu'on utilise des mots chiadés ou qu'à un moment on parle de la pièce sans donner aucune explication. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va mettre un personnage qui a pas compris la pièce. Déjà parce que ça peut arriver de jouer dans une pièce où le metteur en scène nous demande des trucs, on comprend rien, ou alors on n'est pas bien sûr d'avoir tous les enjeux. Et on s'est dit, ce personnage-là sera en lien avec le spectateur et dira au spectateur, hein, comme un petit clin d'œil, vous inquiétez pas, des fois on va au théâtre et nous-mêmes on comprend rien. Donc ce film est pour tout le monde, c'est ça. l'idée.
Et en gros, c'est un condensé de toutes les anecdotes qu'on peut récupérer de la vie de la Comédie française depuis des années.
Non, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ça et il y en a des beaucoup plus fortes, mais ça n'aurait pas été crédible dans le film. Mais il y en a aussi des tragiques. Enfin, c'est un échantillon. C'est un échantillon.
Eh bien.
Ouais.
Qu'est-ce qui distingue...
Ça existe depuis longtemps, alors.
Oui. Oui, presque 4 siècles maintenant.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui distingue ce film des autres films qui ont été tournés autour du milieu du théâtre, justement ?
Bah, je sais pas si je les ai tous vus, mais je crois que l'idée que ce soit populaire vraiment fait quelque chose peut-être d'un peu nouveau. Et c'était la première fois qu'il y avait un film qui se tournait, une comédie pour le cinéma, qu'on pouvait tourner dans le français, qu'on pouvait tourner dans la salle Richelieu. Ça, on se rendait compte qu'il y avait un petit côté exceptionnel, quoi. D'être sur la scène avec des caméras, on se disait, c'est marrant, vraiment, c'est notre lieu, mais c'est pas tout à fait comme d'habitude. On sentait qu'il se passait un truc un peu hors du commun, quoi, enfin, atypique.
Sous couvert de comédie, vous dévoilez un peu une micro-société, en fait, avec ses égos, avec ses hiérarchies, avec ses failles, avec tout ce petit monde. Vous aviez envie vraiment de révéler ça aux yeux des spectateurs ?
Oui, on avait envie que les gens se disent « Tiens, mais c'est une entreprise, quoi, en fait. C'est comme partout. » D'ailleurs, il y a des gens qui me disent, là, je fais les avant-premières, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ça m'a fait penser à mon boulot, je travaille à l'hôpital. » Ça s'est revenu plusieurs fois. Et je me dis, dans chaque entreprise, il y a ça, il y a la hiérarchie, des histoires d'amour, parce que les gens passent beaucoup de temps ensemble, des tromperies, des problèmes de couple, des problèmes de garde d'enfants. Il y a ça partout et des fois on croit peut-être que parce qu'on a des beaux costumes, enfin on s'imagine peut-être une image de nous, on est très bien payé, puis on a des beaux costumes, puis on est très digne. En fait, non, pas du tout. On est comme tout le monde, on a nos problèmes, nos petites galères du quotidien.
Vous avez évoqué le personnage de la maquilleuse tout à l'heure.
Oui.
Justement, ce sont des regards extérieurs qui viennent mettre en perspective tous ces codes et les mettre un peu à défaut, quoi.
Ouais, c'est ça. On s'était dit que c'était bien qu'il y ait un personnage qui vienne pas d'ici. D'ailleurs, à un moment, elle dit « c'est beau, les photos », en regardant les tableaux, les tableaux de Molière et tout. Et ouais, parce que c'est vrai qu'il y a différents... Il y a plein de petits mondes, quoi. Et le monde de la télé, c'est encore autre chose. Mais on aurait pu... Enfin, on s'y connaît pas assez, mais un film sur le monde de la télé ou le monde des plateaux, comme ça, des trucs en direct ou des machins, ça doit être passionnant. Mais c'est un autre monde. Les codes sont pas les mêmes, effectivement.
Et votre personnage vient un petit peu un apprentissage de la direction d'acteur et de la mise en scène. Et ça,
oui.
On voit que ça la bouscule.
Oui.
Vous-même, c'est né d'une expérience. Vous avez vu, observé un metteur en scène ou une metteuse en scène qui aurait pu vivre
non.
Ce genre de choses, de pression?
Si, je me doute souvent que les metteurs en scène, ils en ont beaucoup, beaucoup apporté. Je vois bien que tout le monde vient leur raconter leurs petits problèmes. J'ai pas bien dormi, je sais pas si je vais être bien aujourd'hui. J'ai un problème avec mon bouton de veste qui est en train de sauter. Enfin, tout le monde leur raconte les soucis et des fois, je les vois se prendre plein une avalanche de problèmes et de devoir gérer ça. Et après, ce film, c'était spécial parce que je considérais un peu que c'était comme si je faisais une mise en scène, en fait. Parce que j'étais le lien, c'était mon projet, réalisé avec Martin et Bertrand, j'étais pas seule du tout, mais des fois je me disais, tiens, c'est quand même un peu méta. Le stress de cette metteuse en scène, je l'ai aussi moi avec ce projet en parallèle, quoi.
Sachant que vous êtes complémentaires tous les trois, parce qu'il y en a un qui est plus sur l'aspect technique,
ouais,
de la mise en scène, l'autre qui est plus dans la direction d'acteur, et puis,
ouais,
vous qui avez participé, qui êtes le rôle principal et qui avez participé également à l'écriture.
Oui, puis Martin, il a l'expérience, oui, plus technique, et puis il avait déjà écrit des scénarios, donc il avait l'expérience de l'écriture. Bertrand, il a une grande sensibilité sur le jeu, mais aussi à l'écriture, de comment les acteurs vont pouvoir s'emparer ce texte, comment ça se joue, il dirige merveilleusement bien, moi j'adore comme il travaille avec les acteurs et comme il leur parle et comme il sait qu'on peut pas avoir le résultat tout de suite et comme il sait diriger les gens, les mettre en confiance et tout, il est vraiment très très fort. Et moi effectivement j'avais ma petite pression à moi sur les épaules de aussi faire venir mes camarades, on va dire, mes collègues dans ce projet en se disant qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce qu'ils vont être contents ? Est-ce qu'ils vont passer un bon moment ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop épuisés ? On était en fin de saison, tout le monde jouait le soir, on convoquait les gens forcément à 6h du matin parce qu'il fallait que ça finisse tôt, parce qu'ils jouaient le soir. Donc voilà, moi j'étais toujours un peu heureuse, un peu inquiète.
Alors j'ai une question qui va un peu à contre-pied de ce que vous venez de dire sur Bertrand Huskla.
Oui.
Est-ce qu'il y a besoin, à un moment donné, de ne pas être gentil quand on est metteur en scène ?
Je crois pas en vrai.
Parce qu'au fur et à mesure du film, on voit qu'elle s'endurcit et qu'au bout d'un moment, elle craque.
Elle craque, stop,
c'est moi qui décide.
Non, mais en vrai, heureusement, il y a des projets qui se passent bien avec, dans la joie et le bonheur. Hein. J'en suis sûre parce que, par exemple, la pièce que j'ai le plus jouée aux Français, c'est La puce à l'oreille. Lille au bord, c'est la metteuse en scène. Et j'ai fait plusieurs spectacles avec elle. Et elle arrive et elle met tout le monde bien. Elle veut que tout le monde soit bien, heureux. Elle fait des exercices qui rendent tout le monde joyeux et tout le monde travaille dans la joie et ses spectacles cartonnent. Donc, non. Je sais que c'est possible d'être gentil et que ça se passe bien.
Le film montre aussi des choses. Là, par contre, on s'en doute qu'il y a un équilibre à trouver entre vie personnelle et vie de comédienne. Ça aussi, vous vouliez le montrer. Et de quelle manière on y échappe, du coup, à cette pression-là, de cet équilibre à trouver tout le temps en permanence?
Oui, on se demande toujours, effectivement, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on n'est pas en train de penser trop à l'organisation ou à est-ce qu'on a racheté du lait, des couches quand on est au théâtre? Est-ce qu'on pense pas trop à « mince, j'apprends pas mon texte pendant qu'on endort notre fils et que ça met des heures ?» Ça, c'était une question qui m'intéressait. Je savais dès le début qu'il y aurait la famille dans cette histoire. De toute façon, au théâtre, aux Français, en tout cas, on parle beaucoup de la famille. Il y a beaucoup d'enfants dans les coulisses. Il y a beaucoup d'épannes. Qui a une nounou pour demain? Qui est fiable et safe parce que je suis en galère? Mon copain est en tournée. Il y a beaucoup de comédiens qui se mettent avec des comédiens parce qu'ils se sont rencontrés en répétition. Et du coup, ils doivent se débrouiller avec les tournées, jouer le soir, les week-ends. Donc voilà, ça c'était sûr que c'était... Je réponds pas à la question, hein, je sais pas comment on fait pour être passionnée, à fond, impliquée et des super parents en même temps. Je ne sais pas comment on fait, mais je me pose la question.
Mais vous y arrivez, la preuve c'est qu'aujourd'hui vous êtes avec votre fils qui n'est pas très loin.
Ouais, c'est ça.
Et on imagine que ça, vous êtes nourrie d'une expérience personnelle aussi.
Ah, complètement là-dessus, ouais, complètement. Ouais.
Il y a des personnages un peu atypiques ou même peut-être à contre-emploi. Quand on pense à Guillaume Gallienne qui fait quelqu'un de psychorigide, on ne le voit pas du tout dans la vie comme ça.
Oui.
Et ça aussi, c'est réel d'avoir un gardien dans une institution qui normalement tout roule, tout coule, et qui est aussi psychorigide à l'entrée.
En fait, cette histoire de badge, ça nous amusait parce qu'on s'est dit, en fait, on se retrouve toujours un peu humilié quand on nous demande un peu patte blanche à l'entrée d'un endroit. Et puis là, ça m'a refait penser à ça, parce que là, j'ai refait de la promo. Donc, je suis allée par ma Radio France. Radio France, on regarde ton sac, on te demande qui t'aide, d'où tu viens, pour quelle émission tu viens. Quand on faisait les vidéos sur Canal+, c'était pareil. Il fallait prouver à chaque fois que si, on est vraiment attendu, si, on a le droit de rentrer. Et là, aux Français, quand je suis arrivée au tout début, c'était un peu pareil. Plus maintenant, mais au tout début, je devais... Quelquefois, on m'a dit « Vous êtes ?» J'étais là « Mais Pauline, je suis dans la troupe. Mais si, je vous jure. » Et ce moment-là est toujours un peu humiliant quand on ne veut pas te laisser rentrer comme en boîte de nuit, quand tu te fais regarder par le vigile et qu'il te dit « Ça ne va pas passer. » Il y a ce côté légèrement humiliant, et ça nous amusait de le mettre d'emblée au début de l'histoire. Et Guillaume Gallienne, c'était génial qu'il vienne faire ce rôle. Déjà parce qu'on voit tout de suite que c'est une fiction. Parce qu'on sait que Guillaume Gallienne ne travaille pas à l'accueil. Et en plus, il était super drôle dans ce rôle, quoi. C'était très marrant.
Il y a un autre rôle très drôle, c'est celui du régisseur,
ouais,
qui vous abreuve de détails techniques dont on voit que la plupart des gens se fichent totalement.
Ouais.
Ça aussi, c'est réel.
Oui, on en a croisé des comme ça. Ils sont passionnés. Ils sont passionnés, ils ont des problèmes, ils veulent nous expliquer pourquoi. Mais nous, en face, on n'a pas les termes techniques, on n'a pas les mots. Puis le metteur en scène, il est toujours pressé, il doit toujours avancer sur plein de choses. Donc c'est vrai que si quelqu'un te fait une grande explication, ça bug dans le cerveau de la personne en face, quoi. Donc ce régisseur, on l'a déjà croisé quelque part, on en a croisé des comme ça.
Alors, il y a un autre personnage, je ne vais pas tous les faire, mais il y a la costumière qui est très cash, quoi, dans sa façon de parler, sur les détails de la physionomie de la comédienne. C'est, ça aussi, c'est une expérience. Elles sont comme ça, les costumières?
Non, mais c'était inspiré du fait qu'en fait, ils savent tout sur nous, quoi. Les costumières, elles te disent « Bon, écoute, tu sais, il faut reprendre ton costume parce que tu as pris 2 kilos, là. Ah bon ? Oui. Ah bah, je savais pas. Ah bah si, je peux te le dire. Et là, on a fait un mix entre costumière et habilleuse. On a les deux en vrai au théâtre. Les habilleuses, elles sont là en loge avant qu'on rentre sur scène. Elles savent mieux que les autres si on est stressé, fatigué, angoissé, comment on va. Elles sont au plus intime, quoi. Donc voilà, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait si ces personnes-là, au plus intime de nous, on mélange ça avec un caractère hyper pipelette, hyper gossip et qui dit tout ce qui lui passe par la tête.
Le dernier personnage dont je vais parler, c'est la plus ancienne, qui oui. montre de quelle manière on peut échapper à sa façon, chacun à sa façon, au trac. Oui. Elle fume un pétard, oui. on peut le dire. Ça aussi, c'était une manière de montrer que tout le monde peut s'adapter à sa manière. Tout le monde vit ce moment-là de trac. Et elle, avec l'expérience, elle le prend par-dessus la jambe.
Ouais,
c'est comme ça.
Ouais. Tout le monde a son trac, tout le monde a sa façon de faire. Et puis... Et on s'est dit avec Daniel, ça va être génial. C'est une femme et une actrice qui est hyper impressionnante, quoi. Elle a 88 ans, elle joue, elle là sur le tournage, on oublie son âge quand on tournait le film, elle jouait le soulier de satin, une intégrale de 8 heures où elle faisait plein de personnages. Elle venait de finir de jouer ça, elle repartait le jouer à Avignon de 22h à 5h du matin. Et je me disais, mais elle est vraiment épatante, quoi. Donc c'était parfait de la mettre dans un personnage rock. En plus, elle est rock, donc c'était parfait de la voir dans ce personnage-là.
Et en fait, elle apporte elle aussi sa fraîcheur, ce qui est paradoxal, quoi.
Ouais.
Alors qu'elle est le fruit de l'expérience.
Oui, et puis ça aussi, comme dans la troupe, il y a des gens, ça va de 20 ans à 88 ans, 90 ans. Donc on s'est dit, c'est bien d'avoir le jeune ouvreur, quelqu'un qui vient jouer le jeune ouvreur, et quelqu'un qui joue cette actrice, et d'avoir une tranche d'âge, des personnages très différents, quoi.
Alors, il y a autre chose dans le film, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais il y a une apparition.
Oui.
C'est carrément le créateur de ce lieu, c'est Molière.
Oui, c'est ça.
Pourquoi il vient ? C'est juste pour au moment où ça commence à basculer dans le doute, allez, on jette l'éponge. Non, il faut penser d'abord à l'esprit de la troupe.
Oui, parce qu'en fait, il est là partout. On peut l'oublier, hein, mais il est... Il y a des tableaux de Molière dans les couloirs, au foyer des comédiens. Il y a des statues de lui. Donc, il est là partout, il nous regarde. Et puis on joue beaucoup de Molière, il y a toujours chaque année un ou deux Molières. Par exemple là il y a Scapin qui cartonne depuis des années, il y a Laurent Stocker qui fait l'avare. D'ailleurs c'est Benjamin Laverne qui joue Scapin ou Noam Morgenstern. Et il est là, donc on ne pouvait pas faire cette histoire sans parler de ça. Et à la fois on voulait traiter ce lieu très moderne, avec nous, les personnages quand ils parlent, ils disent « putain, ça fait chier », enfin ils parlent vraiment comme on parle aujourd'hui. Et en même temps, on s'est dit, on va pas non plus, je sais pas, il faut qu'on parle de la modernité du lieu et aussi du passé, parce que c'est ça qui cohabite ensemble, donc il nous fallait les deux.
D'accord, mais c'est un petit peu un levier dramatique dans
le
film quand même.
Ouais, ça, il y a une bascule.
On s'achemine vers la fin de l'entretien.
Oui.
Est-ce que vous, un jour, vous avez envie d'être metteuse en scène ?
Pourquoi pas ? Alors, je ne montrerai pas Macbeth en costume d'époque dans la grande salle, dans une mise en scène classique. Enfin, ça, c'est sûr que non. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien. Enfin, là, ce projet, il n'est pas encore... Enfin, ce film, j'ai toujours appelé le projet. Dans ma tête, ça s'appelle le projet. Mais ce film, il n'est pas encore sorti.
Il sort le 22 juillet.
Et voilà, il sort très vite. Donc, j'ai pas... Il y en a qui... Ah, puis un truc se finit, ils sont sur la suite. Moi, je ne suis pas du tout sur la suite. Mais je pense que je vais avoir envie de refaire un projet que j'initie. Mais je ne sais pas lequel, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi.
Eh bien, c'était justement mon ultime question.
Oui.
Quels sont vos projets depuis le tournage déjà ça fait un an, donc
oui.
Pour les gens, on ne se rend pas compte, mais un film, ça se fait sur la longueur.
Ouais.
Et il ne sort pas instantanément après le tournage. Il y a toute une phase de post-production, de montage, etc. etc.
Oui.
Mais là, depuis, qu'est-ce que vous avez pu faire qu'on
depuis,
verra bientôt et quels sont vos projets actuels?
Oui, depuis dans un film d'Emmanuel Mouret, qui sort je sais pas quand, pareil, dans un an. J'ai aussi fait une petite, vraiment un petit clin d'œil, vraiment pas grand-chose, mais j'y suis allée avec grand plaisir. C'est un film de Alison Wheeler, parce que j'adore Alison Wheeler. Et en plus, c'était avec Julien Frison, qui est dans notre film de la Comédie Française. Donc, c'était très joyeux.
Donc, a priori, c'est une comédie avec Alison Wheeler.
C'est une comédie, oui. Et puis, après, évidemment, j'étais au Français. J'ai repris La Puce à l'oreille, dont je parlais tout à l'heure, que je joue depuis 7 ans. Et on a aussi créé l'école de danse, je crois que c'était après. L'école de danse de Goldoni et que je reprends là à la rentrée quand les travaux seront finis et que le théâtre réouvre.
Parfait, je vous remercie.
Merci beaucoup.
On rappelle donc de la Comédie Française, réalisée par Martin Darondeau et Bertrand Huscla, sort ce mercredi 22 juillet. Si vous avez envie de vous évader à travers l'humour, c'est le film qu'il vous faut. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.